C'était un homme dont le visage n'était jamais immobile et dont les pas l'ont porté un peu partout dans le monde.
En espagnol, je parlerai toujours comme un portoricain de New York.
Tu parles presque 8 langues.
Oui.
Est-ce qu'il y en a une qui est la tienne?
Non, je suis un homme sans langue maternelle, je crois. C'est très dur, tu sais. Parce que je me suis éveillé à la conscience en 3 ou 4 langues simultanément. Et ça t'explique bien de choses.
Prénom?
Yvan.
Nom?
Illich.
Date de naissance?
1926, à Vienne.
Mort?
Pendant sa sieste, à 76 ans, à Brême, en Allemagne. Ne pas en conclure qu'il est seulement un Européen.
Un nomade, alors?
Un professeur itinérant, avec longtemps une dilection pour le Mexique et Cuernavaca, où il fonda un pensoir fréquenté par des intellectuels contestataires du monde entier.
Religion?
C'est un mot qu'il n'utilisait guère, non plus que celui de Dieu. Prêtre de l'Église catholique, qui ne le reconnaissait plus, non plus que lui ne se reconnaissait en elle.
Quel était son métier?
Animateur, chaleureux de groupes amicaux, de réflexion, où les diplômes ne comptaient pas. Mais aussi bien procureur des institutions de la modernité, qui produisent tant d'illusions.
Son tempérament?
Un ascète, mais enfin le contraire d'un ermite.
Œuvre principale?
Celles de la première partie de son parcours ont eu un succès énorme, notamment Une société sans école et La Némésis médicale. Ensuite, ses livres passent sous les radars, mais il devient aujourd'hui un classique pour les tenants de l'écologie et aussi ceux de la décroissance, même si c'était des mots dont il ne se souciait pas nécessairement.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
C'était donc un clerc qui a pu être regardé comme un prophète. Il avait en tout cas l'allure d'un augure. L'augure, c'est celui qui crée un espace, ici, un espace d'intelligence. Notre premier interlocuteur sera Jean-Michel Djian, qui publie aux éditions du Seuil une biographie d'Ivan Illich.
C'est un personnage déjà qui physiquement ne laisse pas indifférent. Il a les traits marqués, il ressemble à un cep de vigne assez haut. Il a un regard extrêmement perçant. Alors c'est un personnage qui est d'origine austro-hongroise, qui est né à Vienne en 1926. Et au fond, un gamin qui est né entre deux charniers, comme celui de 14, 18 ou 39, 45, ne peut pas s'en sortir indemne. Et au fond, Illich est partagé très tôt entre la désespérance totale et l'espérance totale. Ces deux extrêmes qu'il gère entre 12 et 14 ans et au fond, à un moment donné, un soir de Noël, sa mère le voit assez habité dans l'église où ils allaient pour la cérémonie de Noël. Et elle en déduit assez vite qu'il est destiné à rentrer dans les ordres.
Alors vous voulez dire que c'est une vocation de sa mère plutôt que de lui?
Non, je pense que sa mère n'y est strictement pour rien, même si son parcours à elle, la mère, est assez particulier. C'est une juive séfarade qui se convertit au catholicisme, puis au protestantisme. C'est un personnage mondain, aristocrate. Il a seulement gardé de sa mère. C'est ce côté aristocratique qui caractérise Illich, Ivan Illich. Et les bienfaits de cette aristocratie, c'est aussi d'avoir pu avoir accès très jeune, à toute la bibliothèque du grand-père. Et cette bibliothèque, c'était pas n'importe laquelle. On y trouvait les œuvres majeures, en particulier Dante. Et Dante a beaucoup marqué Illich. Et puis, peut-être là aussi, les racines de son œuvre future, c'est d'avoir installé son intellect quelque part entre l'ordre et le désordre. L'ordre, c'est la bibliothèque. Le désordre, c'est de s'installer sous la table pour écouter les conversations des invités de ses parents et de ses grands-parents. Il en tire profit, il apprend à juger, à critiquer, à développer son esprit critique, tout simplement en jonglant entre un savoir institué et un flux de conversation.
Entrer dans les ordres, prêtre, Il l'a d'abord été dans un quartier portoricain de New York, puis à Porto Rico même, où il a été nommé vice-recteur de l'université catholique avec le titre ronflant pour un homme jeune de monseigneur. Chez les portoricains, il a fait, en fait, l'expérience à la fois de la misère et de l'intelligence des pauvres. Dans ces années 1960, on vante beaucoup l'aide au tiers-monde. Illich ne croit ni à l'idéologie du développement, ni à l'alliance anticommuniste qu'elle permet de nouer entre les États-Unis et les églises d'Amérique latine. Ses manières d'être, de faire, finissent par provoquer des dénonciations à Rome, où la Congrégation pour la doctrine de la foi le convoque pour lui opposer 85 accusations graves du genre de celle-ci.
Est-il vrai qu'à Cuernavaca ont été permises beaucoup d'exceptions liturgiques et qu'on a célébré la Sainte Messe en soutane et en manche de chemise? Est-il vrai que vous vouliez que les femmes puissent se confesser sans grille au confessionnal? Est-ce vrai que vous voulez une nouvelle église catholique, c'est-à-dire une église démocratique, sans doctrine, sans hiérarchie, sans clergé et sans pasteur? Est-ce vrai que vous suggérez que dans le futur, vous vouliez une église réservée à la seule classe sociale pauvre, une église qui exclut les riches? Que dites-vous de l'idée propagée par des prêtres modernistes, révolutionnaires et adeptes de la guérilla, ceux qui disent que si le catholique n'est pas un révolutionnaire, et du côté des révolutionnaires, alors il est en état de péché mortel? Pourquoi, comment et quand ont commencé vos relations culturelles et amicales avec des chefs et des dirigeants connus de mouvements politiques internationaux, spécialement avec Luis Alberto Gomez de Sousa et le défunt Che Guevara?
Nous sommes en 1969. Ivan Illich recevra un coup de crosse, mais pas le coup de grâce, enfin si on ose l'expression. Un cardinal lui aurait dit « Partez, partez, ne revenez jamais !» Jean-Michel Djian.
Ivan Illich n'a jamais défroqué. Ivan Illich a toujours, surtout à la fin de sa vie, il a fait la boucle considérant que le testament, l'ancien et le nouveau, avaient encore quelque chose à dire à l'humanité d'aujourd'hui, mais la réalité, c'est que il a fait ce qu'il a pu pour essayer de faire comprendre qu'on ne pouvait pas vivre sur Terre sans spiritualité. Les plus circonspects à l'endroit d'Illich, et au-delà de son talent, n'hésitez pas à le questionner sur son engagement spirituel et religieux surtout. Un jour, à Chicago, il y a un étudiant qui lui pose la question du fond de l'amphi. Est-ce que vous priez tous les matins ? Et Illich, du tac au tac, répond, évidemment publiquement, est-ce que je vous demande si vous vous masturbez tous les soirs ?
Dans la même tonalité, ce premier extrait d'un long entretien télévisé en 1972 d'Illich avec Jean-Marie Domnach, le directeur de la revue Esprit, la revue d'origine chrétienne, qui a fait beaucoup pour son introduction en France.
Je crois que le nom de Dieu, normalement dans ce moment-ci, on l'utilise en vain pour justifier quelque chose. C'est, j'espérais de faire savoir que je l'aime sans en parler.
C'est qu'il y a l'institution aussi et qu'est-ce que ça veut dire quand cette institution se réclame du Christ ?
Écoute, l'institution se conçoit sur le modèle politique, sur le modèle d'une administration, d'une bureaucratie. Maintenant, de la Bible, je sais que j'ai mes racines en elle. Dans ce sens, elle est mère. Et je sais aussi de la Bible qu'elle est une putaine. Et je cesserai d'être romain, chrétien romain de l'Église que le Seigneur a fondée, si je n'aurai pas le courage de m'identifier comme fils de putain.
Monsieur Lebrun, Cuernavaca au Mexique, où Illich crée un centre qui va fonctionner une dizaine d'années et qui sera connu des intellectuels contestataires du monde entier, qu'est-ce que c'est au juste ? Une auberge haut de gamme ?
Enfin, une auberge intellectuelle, où les uns et les autres, en confrontant leurs pratiques et leurs idées, apprennent à maîtriser l'outil de la pensée. Attention, ce n'est pas une université. Il n'est nul besoin de diplôme pour y participer. Une grande bibliothèque est à disposition, à l'ombre de laquelle on discute, on dispute, on écrit, mais on mange aussi, et on boit, et on aime, enfin au moins d'un amour d'amitié. De très nombreuses têtes chercheuses se donnent rendez-vous à Cuernavaca. Susan Sontag ou Hannah Arendt, Paolo Freire ou André Gorz. Nombreux sont ceux qui ne peuvent être accueillis faute de place. Mais attention, les humbles sont particulièrement bienvenus.
Il me vient à l'esprit une histoire vraie. En Amérique latine, je m'intéresse aux mythes populaires, aux célébrations des fêtes, aux dévotions superstitieuses. Et je collectionne tous les textes sur ces sujets. Il y a quelques années, j'ai réuni au Pérou 5 caisses de documents. 2 seulement sont parvenus à Cuernavaca. Les autres m'ont été volés. Plus exactement, quelqu'un les a saisis. Il a donné l'ordre à son jardinier de les brûler, sous prétexte que si ce matériel m'était destiné, c'est qu'il devait être subversif. Je n'arrivais pas à croire à cette sottise. Une année plus tard, de retour du Pérou, je rencontre celui qui avait reçu l'ordre de brûler mes livres. C'était un homme qui avait sous les pieds l'épaisse corne de ceux qui n'ont jamais de leur vie porté de souliers. Don Nazario. Et Don Nazario m'a dit « Oui, j'ai brûlé ces livres parce que j'étais obligé de le faire. Mais je dois vous avouer quelque chose. » J'en ai volé quelques-uns. Je les ai cachés sous mon lit. Et il sortit de sous son lit les meilleurs récits, les documents les plus précieux qu'il avait sauvés du feu. Je l'ai questionné sur ceux qu'il avait dû brûler et qu'il avait lus. Il en avait retenu l'essentiel. Et cet essentiel-là me fut transmis par cet homme sans culture. Alors, en vérité, je me suis dit ceci. Réserver l'usage du livre à l'homme diplômé est aussi fou que de permettre au seul médecin de consommer des médicaments.
Notre lecteur d'Illich, c'est Hugues Kester. Notre deuxième interlocuteur, c'est Thierry Paco, éditeur des œuvres complètes d'Illich, 2 volumes, chez Fayard. C'était un familier. Le mot aurait sans doute plu à Illich.
Illich était toujours soucieux de partir des gens, de partir de leur contexte, de leur milieu. Et il avait beaucoup, ça m'a toujours surpris, il avait beaucoup de filleuls. Un filleul, c'était des gens du quartier de Cuernavaca qui, quand ils avaient un enfant, demandaient à Ivan Illich, qui était une personnalité, d'être un peu le parrain. Et il s'en occupait. Et il me dit comme ça, sur l'un d'entre eux, il a son permis de conduire, mais il n'a pas son bac. Et je réussis, parce qu'il avait quand même beaucoup d'entre-gens, Yvan, je réussis à le faire engager à la municipalité de Cuernavaca comme chauffeur, mais il est retoqué parce qu'il n'avait pas le bac. Donc il a fallu que j'aille leur expliquer que un conducteur, un chauffeur de car n'a pas besoin d'avoir son bac. S'il sait très bien conduire, en plus, il avait des notions de mécanique. Donc Illich était quelqu'un qui, à la fois, pouvait côtoyer, comme on dit, les grands de ce monde et être très attentif aux plus petits.
Le succès est toujours au rendez-vous quand Cuernavaca ferme en 1976. C'est une fermeture volontaire. C'est un risque de trop grandir que ne veut pas prendre Illich. Une société n'est conviviale, un mot qu'il va consacrer et imposer, que s'y est gardée la maîtrise de l'outil. Cuernavaca, c'est un grand rendez-vous pour d'autres encore. On sait que Charles Mingus s'y est retiré pour y mourir. Un hommage à cette ville du Mexique par Jacques Vidal.
Angel woman, don't make me no good.
No good.
Straight like Mary.
so I decided to get a devil woman.
A devil woman.
Meet a girl every now and then.
Every now and then.
Wanna live like all the men.
Like
but angel woman, ain't got
no music woman.
Give me a devil woman.
Woman. Give me
Lord, listen to my
beat.
Inter. Intelligence, service, Jean Lebrun.
Ces années 1970, c'est pour Illich la période de ce qu'il nomme lui-même les pamphlets. Des charges qui remportent un grand succès contre les institutions productrices d'illusions, son biographe Jean-Michel Djian.
Je résume. Quand l'Église est petite, quand on est au niveau de la paroisse, il n'y a pas de souci. C'est l'institution Église qui pose problème, ce n'est pas l'Église. De la même manière, ce n'est pas une petite école dans un coin qui pose problème, c'est l'appareil qui permet d'entourer, de statuer l'institution scolaire, c'est l'État. Et là, cette démonstration qui vient d'un autre intellectuel qui lui a précédé de quelques années, qui s'appelle Léopold Kohr, et qui est parti d'un principe très simple qu'on a retenu d'ailleurs dans l'imaginaire occidental, « small is beautiful ». Et le « small is beautiful », c'est simplement le constat que quand quelque chose est gros, c'est quelque chose va mal. Et cette démonstration simpliste, a priori, permet d'éclairer les raisons pour lesquelles les institutions, quelles qu'elles soient, industrielles, publiques, scolaires, hospitalières, par leur développement intrinsèque, génèrent une contre-productivité qui remet en cause le projet initial.
Alors, première institution mise sur la sellette, l'école.
Este, por donde sale el sol, este brazo corresponde al brazo derecho. ¿Cómo se llama este punto cardinal?
Este.
Este otro brazo.
Oeste.
Lo que queda aquí al frente y lo que queda a la espalda.
Sur.
Muy bien.
Avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques, et qui est la société dans laquelle vivent encore les trois quarts de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après un an ou deux ans, et dans ce sens ils sont dans une condition pire parce qu'à l'école ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école, il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose de l'instituteur et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir. Parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats de niveau inférieur.
Jean-Michel Djian, qui peut parler d'expérience, il a longtemps été rédacteur en chef du Monde de l'éducation.
qu'on a toujours considéré qu'il fallait absolument pas toucher à l'école, que l'éducation et l'école faisaient cause commune. C'est faux. On peut pas réduire l'éducation à l'école. Et Illich, qui a donc sorti ce livre, La société sans école, avec un premier gros malentendu, c'est que le titre initial américain n'est pas du tout La société sans école, c'est la déscolarisation, ce qui n'est pas la même chose. Il y a eu un malentendu, des polémiques, mais des polémiques finalement vertueuses, puisqu'au fond, plein de profs se sont trouvés totalement en phase avec cette idée qu'il fallait peut-être se poser des questions sur la manière dont transmettaient les savoirs et les valeurs. C'était encore une époque, dans les années 70, on pensait que l'impôt, le fait d'avoir des écoles républicaines, permettait d'avoir une exigence et, par rapport au résultat de cette école. Tout le monde paye des impôts, il n'y a pas de raison que tous ceux qui ne sortent pas de l'école ne sachent pas lire, écrire et compter. Or, le constat, c'est que c'est faux. Le nombre de décrocheurs a évolué, le nombre d'absentéistes des enseignants a évolué. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans le processus parfait de la contre-productivité, c'est-à-dire tout ce qui est gros va mal. Il se trouve que l'école est grosse, enfin je parle de l'institution scolaire. Elle produit des normes, elle produit des textes, elle produit des rappels aux valeurs essentielles, elle raffine sa doxa, mais au fond, ceux qui sont devant le petit citoyen qui a entre 12 ans et 18 ans, c'est l'enseignant. Et celui-là, il faut lui faire confiance une fois pour toutes, et peut-être arrêter sans arrêt d'exercer sur lui une pression académique, puisque c'est le mot, il n'y a pas pour rien qu'il existe des inspecteurs académiques, qu'il existe un nombre incalculable de fonctionnaires pour faire en sorte que cette école marche, sauf qu'elle ne marche pas. Si elle marche, c'est grâce aux enseignants, et seulement eux. Donc qu'on les laisse travailler, qu'on les forme bien, qu'on les paye bien, et on verra la différence. Mais il faut en revenir à des choses assez simples. Que constate-t-on ? C'est que depuis 20 ans, les parents qui sont mécontents de voir leurs enfants ne pas progresser dans l'échelle scolaire, ni dans la compétition, qui n'arrivent pas aux grandes écoles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel au privé. Et non seulement ils font appel au privé, mais ils donnent et ils créent une économie de l'enseignement privé colossale.
Ivan Illich s'est donc fait le procureur de l'institution scolaire. Mais ne s'est-il pas fait aussi le procureur de l'institution hospitalière, Monsieur Lebrun ?
Oui, c'est une deuxième cible de cette période des pamphlets d'Illich, l'hôpital. C'est un sujet très sensible aujourd'hui où la lutte contre la pandémie est très hospitalo-centrée.
Prenons le cas de l'hôpital. La démonstration assez simple, beaucoup plus visible que pour l'école ou les transports et ainsi de suite, était de dire, puisque cette institution va grossir, parce qu'il y a une demande et que la demande elle est quantitative, un jour ou l'autre, cette demande quantitative va se traduire en économie de système. Et cette économie de système va générer un mal qui va se retourner contre l'objet qui justifie cette même institution. Et ce postulat, qui est devenu quelque chose d'assez reconnu par l'intelligentsia universitaire, eh bien, débouche sur le fait que Illich, avant tout le monde, découvre que dans les hôpitaux, on va générer des maladies, et notamment les maladies nosocomiales, qui à l'époque étaient considérées comme inexistantes.
Oui, mais pire encore. Hôpital, en principe, ça a la même racine qu'hospitalité. La technicité a vaincu l'hospitalité. Illich recourt souvent à la mythologie grecque. Un de ses personnages, Némésis, a été victime de sa démesure. Le livre d'Illich sur le sujet, en 1975, est titré « Némésis médical ». Thierry Pacot.
Le hospice est un lieu où on accueille celui qui vient d'ailleurs sans rien lui demander, ni son nom, ni le pourquoi de sa présence ici. Tandis que dans l'hôpital, on y vient pour se faire soigner, et puis on doit appartenir à tout un système social, avoir sa carte vitale ou je sais pas quoi, bon, un document quelconque. Dans l'hospice du Moyen Âge, non, parce que c'est financé, soutenu par des institutions caritatives. Et donc ça, c'est important pour lui parce que l'institution caritative, elle pratique la charité, et la charité, en caritas en latin, c'est la traduction de l'agapé des Grecs, et donc de cet amour du prochain.
Némésis médical, c'est quand même le livre qu'il est le plus difficile de lire aujourd'hui.
Je ne pense pas.
Après la lutte contre le sida, après les prothèses de la hanche, après les progrès de la médecine préventive et au temps de la Covid.
Alors effectivement, c'est un livre, je l'ai relu récemment, évidemment, par rapport à la Covid, et c'est un livre qui paraît excessif, parce que il nous dit d'emblée que finalement le système médical va à l'encontre de la bonne santé des gens. Donc on ne peut que s'interroger là-dessus et dire effectivement, on a tous été à l'hôpital à un moment donné de sa vie et on remercie le personnel soignant de s'être occupé de nous. Et lui est très méfiant parce que là encore, c'est tout un système. Et il y va d'une manière forte. Hein. Il dit que c'est tout un système qui supprime notre capacité à savoir comment on va soi-même. C'est-à-dire que c'est seul un médecin qui est habilité pour nous dire si on est en bonne ou en mauvaise santé. Il raconte cette anecdote, il croise un ami, lui dit « Comment vas-tu ?» L'autre lui répond « Je te répondrai demain quand j'aurai les résultats de mon analyse. » Et pour lui, c'était absurde. C'est chacun d'entre nous qui sait s'il est en bonne forme ou pas en bonne forme. Et puis, il avait un rapport à la souffrance, à la douleur, qui, pour lui, était une des marques de notre humanité. Et gommer cette souffrance ou cette douleur par un médicament n'était pas pour lui forcément une bonne chose.
Vous dites qu'il a un kyste à la joue, que le kyste a la forme d'une bille, et puis qu'il prend la taille d'un pamplemousse, et qu'il refuse de se faire opérer quand un chirurgien le lui propose. C'est bizarre.
Oui, ça, j'avoue que c'est bizarre, et ce kyste-là qui le défigurait et qui lui donnait des maux de tête terribles, il me disait ne vous inquiétez pas, je vais m'allonger dès que j'ai une souffrance, et puis je fume un peu d'opium et je vais mieux. Et alors il avait toujours sur lui un stylo Bic, il retirait la cartouche d'encre, il sortait une bougie, du papier d'aluminium. Et puis il faisait fondre un peu d'opium sur ce papier d'aluminium qu'il aspirait avec son tuyau de plastique. Et comme toujours avec l'opium, du moins en Iran, il le passait à ceux qui étaient là. Donc je profitais, j'allais dire, d'une bouffée ou deux d'opium à cette occasion. Et il se relevait, il allait nettement mieux, et il reprenait exactement là où il avait arrêté la discussion.
C'est une idée très partagée aujourd'hui que la lutte contre la douleur est une des fonctions de la médecine. Eh ben, Illich campait sur une autre position. Celui qui est malade pourrait donc, jusqu'à un certain point, mettre en œuvre une résistance à la souffrance. En tout cas, le médecin doit veiller à la permanence d'une vie authentiquement humaine chez son interlocuteur. On n'ose pas dire patient parce que c'était pas le vocabulaire d'Illich. On voit bien que Némésis médical ouvre une première brèche dans l'adhésion à ses thèses. Et en France, cette adhésion va paradoxalement être contrariée par l'avancée de la gauche vers le pouvoir dans les années d'avant 1981, cette gauche qui, au moins en partie, l'avait d'abord suivie. Jean-Michel Djian.
Illich, quand il écrit « La société sans école », ne fait qu'expliquer ce qui allait se passer. Pourquoi on ne l'a pas compris ? À gauche, on l'a compris jusque dans les années 72-73. Les seuls qui ont compris les bénéfices que pouvait tirer la gauche d'Illich, c'est la gauche chrétienne. C'est la revue Esprit, le Nouvel Obs qui a été donné beaucoup d'importance à Illich. Ce sont le PSU, C'est la CFDT, c'est Edmond Maire, c'est Michel Rocard, c'est Patrick Vivray. Ce sont des gens qui ont compris tous les bienfaits qu'il y avait à tirer des passages entre la gauche laïque et la gauche chrétienne. Et puis, à un moment donné, ce qui a tué Illich, c'est le programme commun. Pourquoi ? Parce que les communistes, les radicaux de gauche et le PS ont fait cause commune pour être un parti de gouvernement, sous la houlette de François Mitterrand, comme tout le monde sait, et que cette gauche-là, à partir du moment où elle était installée sur les rails gouvernementaux, nécessitait qu'on reprenne en compte l'essentiel de l'ADN de la gauche, qui est le productivisme. Donc l'écologie, d'un côté, prônée finalement, parce qu'on a assez peu parlé sur ce qui était le fonds de commerce de l'illichisme des années 70, était absolument inconciliable avec une gauche productiviste. Et on a oublié Illich et on en a fait cet angle mort de la conscience politique.
Enfin bref, les socialistes qui entraient dans les cabinets ministériels et qui avaient pu fréquenter Cuernavaca l'oublièrent. Et son éditeur, Le Seuil, qui aujourd'hui publie néanmoins la biographie de Jean-Michel Jean, déclara Illich has-been. Ce n'était pas pour l'étonner. Parmi les institutions devenues contre-productives, il avait depuis longtemps rangé au premier rang les pouvoirs politiques. La prochaine génération à retrouver du goût pour Illich sera celle du millénaire nouveau.
France Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, pendant la deuxième partie de son parcours, l'œuvre d'Illich, toujours aussi abondante, voire davantage, passe pourtant un peu plus inaperçue, sous les radars, en somme.
Illich n'en souffre pas nécessairement, il a encore de nombreuses années devant lui, il est libre, il étend son champ d'action, il va ici, là et ailleurs encore, et vous l'avez dit, la production de la deuxième partie de sa vie sera encore plus abondante.
Il y a quelque chose qui peut paraître un peu mystérieux, c'est qu'effectivement, dans la première partie de sa vie, où il publie ses livres qui ont un très très grand rayonnement, et qu'il va appeler mes pamphlets, là, effectivement, il va voir Indira Gandhi, il va voir Trudeau, il va voir des tas de gens des gens de pouvoir, quoi, disons-le comme ça, et évidemment, qui lui payent l'avion, qui lui payent des hôtels de classe internationale, et tout ça ne le choque pas. Mais quand il devient prof itinérant, alors il devient, j'allais dire, un homme ordinaire, avec très très peu de besoins. J'étais très surpris, du reste je l'ai connu de 1985 à 2002, sa mort, et je l'ai pratiquement toujours vu vêtu de la même manière. Donc c'est pas quelqu'un qui avait une garde-robe à la mode. Et il avait un ordinateur, mais rien d'extraordinaire. C'est quelqu'un, visiblement, qui pratiquait ce qu'on appellerait aujourd'hui la décroissance, mais sans en faire un fait d'armes.
Thierry Pacaud observe qu'on ne lui collait pas de propriété. Illich, en effet, pourrait faire sienne la devise de son ami Jean-Marie Domnach, tirée du vocabulaire de l'héraldique, « beaucoup de gueule et peu d'or ». Il devient de plus en plus historien. J'ai, dit-il, beaucoup de méfiance à l'égard de ce qu'on dit entièrement nouveau. S'il n'y a pas de précédent à une idée, je subodore qu'elle pourrait être absurde. Lui s'intéresse de plus en plus au Moyen-Âge. Déjà, il vit, on l'entend comme un professeur de cette époque, en nomade, entraînant derrière lui qui veut bien le suivre. Et puis, ses étudiants s'étonnent bientôt de le voir prendre dorénavant des notes en latin. Aujourd'hui, observe-t-il, n'est considéré comme scientifique que toute entreprise de recherche politiquement capable de trouver son financement. Or, pendant ce temps, de grandes œuvres anciennes disparaissent, comme ensevelies. Et voilà qu'Illich fait d'un homme né en 1096, Hugues de Saint-Victor, son interlocuteur principal.
Saint Victor était un théologien de très grand niveau qui a écrit en particulier un ouvrage qui s'appelle L'art de la lecture, qui est vraisemblablement la première fois où quelqu'un nous explique ce que veut lire silencieusement pour soi-même un texte. Et Ivan Illich va le commenter, ce texte-là, en latin, qui depuis a été traduit aussi en français au Cerf. Il va le commenter pour expliquer comment il y a là une transformation fondamentale, non pas seulement du rapport de n'importe qui avec un texte, avec un livre qu'auparavant on lisait à haute voix, mais un rapport personnel qui développait l'esprit critique.
Alors on peut préciser,
oui,
on peut la préciser. Lecture à haute voix se...
On écoutait tout simplement le frère moine qui lisait pour les autres à haute voix. Est-ce qu'il comprenait bien ce qu'il racontait? C'était pas très important. Et puis voilà, c'était terminé. Tandis que quand on est confronté seul à un livre, on se l'approprie à son rythme, et puis on peut revenir sur le texte, on peut le relire à nouveau, on le lit silencieusement. Un des premiers à avoir lu silencieusement un livre est saint Augustin. Mais il a fallu quand même attendre plusieurs siècles pour que Hugues de Saint-Victor et d'autres nous disent finalement, lisez, parce que chaque auteur s'adresse à un seul lecteur singulier. Et donc du coup, évidemment, il va vous éduquer à penser par vous-même, il va vous inciter à discuter même silencieusement les thèses que cet auteur propose. Et ce faisant, évidemment, votre esprit critique s'élabore indépendamment de l'Église.
Et voilà ce qu'apporte ce Didascalicon, le traité de l'art de lire d'Hugues de Saint-Victor. Il prélude à une histoire du regard, du changement du regard qu'Illich aurait voulu achever. Et il note que voilà maintenant l'ordinateur qu'il voit comme une partie du cerveau qui s'installe près du corps et qui mérite toute une étude qui l'a occupé longtemps. Sa méditation se veut sans limite. Un jour, une communauté de Mexicains du Texas vient lui demander une consultation à propos d'un projet de lac artificiel à Dallas. On voit déjà le lac scintiller dans la nuit et rafraîchir la ville, sauf qu'il risque de recouvrir un quartier entier de modestes maisons de Mexicains et qu'il ne pourra être alimenté que par des eaux d'égout recyclées. Thierry Paco vient de proposer une nouvelle édition du texte étonnant, H2O, que ce dossier a inspiré à Illich.
Alors, Ivan Illich est quelqu'un qui s'intéresse toujours, j'allais dire, à la dimension mythologique et à la dimension symbolique de toutes les réalités humaines et de tous les sentiments humains. Et donc, les quatre éléments qu'Empédocle va théoriser le passionnent parce que, me fait-il remarquer, les quatre éléments en Occident, qui sont cinq dans la philosophie orientale, les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, sont contradictoires en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'eau nous désaltère mais peut inonder notre maison, l'air nous fait respirer mais peut nous asphyxier, le feu... Voilà, nous réchauffe quand on a froid, mais peut aussi incendier notre champ, etc. Et donc, pour lui, les éléments sont l'expression même de la dialectique des choses. C'est-à-dire, être quelque chose est son contraire. Qu'il analyse l'eau comme un des éléments porteurs d'un imaginaire. Et donc, il part de la matérialisation de l'eau. L'eau est une matière qui a trois états, etc., mais qui va être progressivement, par la technique... transformé en H2O. Donc l'eau de la rivière, l'eau vivante, l'eau ou l'eau stagnante, pour lui, perd cette dimension finalement mythologique pour devenir simplement un élément de la chimie. Et donc il en arrive à ce paradoxe qu'il trouve absurde, que dans le monde moderne, pour pouvoir utiliser de l'eau, il faut d'abord la nettoyer. Il ne considère pas comme des progrès de voir arriver l'eau à un robinet. Parce que, bon, il y avait des sources, il y avait des puits, et il y avait des fontaines. Mais, comment le dire, ce n'est pas un nostalgique d'une autre époque. Je ne pense pas qu'il faille le lire de cette manière-là. Il réfléchit à chaque fois sur en quoi ce que les humains appellent un progrès les fait avancer en eux-mêmes. C'est plutôt ça. Et si il y a un progrès, ou quelque chose qu'on pourrait appeler un progrès, qui se double de quelque chose qu'on pourrait appeler un recul, alors le résultat n'est pas favorable à ce progrès. Et pour l'eau, le fait qu'on perde la dimension symbolique de l'eau, alors l'eau, évidemment, de la purification, du baptême, etc., etc., pour lui, bah, ce n'est pas forcément une avancée.
L'eau dont nous sommes en quête, c'est le fluide qui trempe les espaces, intérieurs et extérieurs de l'imagination. L'eau possède deux faces. En tant que véhicule de métaphore, l'eau est un miroir changeant. Ce qu'elle dit reflète les goûts du temps. Ce qu'elle paraît révéler et trahir dissimule la matière sous-jacente. Tout autour de son château de Wilhelmshöhe, près de Cassel, un prince allemand de l'âge baroque a fait aménager un jardin anglais qui sollicite de ses eaux qu'elle déverse tout ce qu'elles savent. Dans les bois, elles jaillissent, murmurent, se cachent ou s'enflent. Dans les prés, elles serpentent et musent. Et elles suintent du plafond de la grotte. Il y a des niches et des parois embuées, emperlées ou mouillées. Ces eaux aguichent et séduisent. Elles menacent de vous tremper et même de vous noyer. Les eaux du prince sont là pour distraire toute une cour. Cependant, ce n'est pas la surface constamment changeante de l'eau qui rend si difficile l'exploration de la matière historique. C'est la profonde ambiguïté de l'eau elle-même qui nous la rend aussi insaisissable que l'espace était incompréhensible pour Platon. L'eau demeure un chaos jusqu'à ce qu'un récit de création interprète son apparente confusion comme la frissonnante ambiguïté de la vie.
Les Chicanos de Dallas qui craignaient les effets du projet de lac ont dû être assez étonnés du texte reçu en échange. Mais les pauvres qui allaient chez Illich savaient qu'ils allaient chez un ami. Et Illich lui-même a toujours été très étonné des mille manières que les pauvres avaient de s'aménager un chez-soi. Habiter selon ses moyens et ses besoins, en étant présent au monde et à autrui, c'est un sujet de prédilection pour Illich, même s'il n'a pas explicitement consacré de livre à la ville. De sa réflexion sur le sujet, on a retenu surtout un calcul qu'il a souvent cité. La voiture qui s'ajoute à la voiture, disait-il, c'est l'embouteillage assuré. Les 100 000 km par an que va faire en moyenne un Américain lui demandent 1600 heures de travail, n'est-ce pas ? Contre-productif. La contre-productivité des habitudes acquises, la convivialité en tant que maîtrise que nous sommes en train de perdre de nos outils, Illich revient aujourd'hui par ses idées fortes. Jean-Michel Dian.
Je constate que depuis 2002, depuis la mort d'Illich, j'étais persuadé qu'on l'avait totalement oublié. Hein. Moi aussi, je fais partie de ceux qui se sont dit « Tiens, à quoi bon sortir un livre sur Illich puisque on le connaît pas ?» Ceux qui ont en dessous de 50 ans aujourd'hui savent même pas à quoi ça peut correspondre. Il s'est réveillé peut-être à la faveur d'un regain écologiste ou écologique, tout simplement parce que il y a des porosités entre reclus, taureaux, un certain nombre de personnages du 19e siècle puis du 20e siècle, comme André Gorce en France, qui a eu un rôle majeur aussi, comme d'autres. Donc, en fait, il vient parce que ceux qui sont écologistes aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il y avait des personnages qui non seulement l'étaient, mais étaient visionnaires. Or, l'écologie n'est pas naturellement visionnaire. Elle essaie de régler des problèmes, comme tous les partis politiques essaient de les régler, mais n'ont pas forcément des idées visionnaires sur la manière dont on peut installer ou réinstaller l'homme sur cette planète. Je pense qu'il aurait aimé Greta Thunberg, par exemple, et je le dis franchement, je pense que Greta Thunberg, à l'heure actuelle, qui finalement préfère s'épancher sur les grandes causes et pas rentrer dans la tendance, ça aurait plu, ces personnages-là auraient plu à Illich.
Le point de vue maintenant de Thierry Pacaud.
C'est pour ça que je crois, rétrospectivement, Kilic n'est pas simplement celui qui fait le procès des institutions en inventant sa loi de la contre-productivité, de l'hôpital, de l'école, des transports, etc., mais qu'en fait, il a une approche écologique des choses.
S'il devient écologiste avant la lettre, c'est qu'en historien, il a le sentiment des limites de la Terre.
Oui. Et ça, très tôt, enfin dans ses premiers textes, on voit que... Alors, il l'appelle pas limite, comme on dirait aujourd'hui, il parle de rareté. C'est-à-dire un terme qu'on trouve chez Sartre aussi. Le monde tel qu'on le connaît est un monde de rareté, et lorsqu'il y a quelque chose qui apparaît abondant, c'est source de problèmes. Et le meilleur exemple, c'est dans son tout petit livre, qui est un recueil de 3 articles qu'il avait proposé au Monde, « Énergie et équité », au moment de la crise du pétrole. Et là, il dit, c'est quand même assez surprenant, le problème avec l'énergie, c'est qu'il y en a trop. Donc là, on voit bien que... Alors là, j'ai compris bien après coup que cette idée que le trop peut produire son contraire, c'est-à-dire le manque, était aussi nourrie par sa fréquentation avec Léopold Kohr, par exemple. C'est-à-dire un auteur qu'il avait rencontré à Porto Rico, avec qui il est resté ami, qui expliquait que si quelque chose va mal, c'est que ce quelque chose est trop gros. Et ça a été repris par Schumacher, qui a fait un livre entier là-dessus, qui a été titré par son éditeur anglais, d'une manière très subtile, « Small is beautiful ».
En tout cas, c'est étrange d'entendre l'écho d'Illich dans le temps qui est le nôtre. Il n'était pas du côté de Prométhée, le multiplicateur de techniques. Et au bout de notre effort prométhéen pour maîtriser le monde, nous voyons présentement qu'il y a non la puissance, mais l'emprisonnement. Merci à Jean-Michel Djian, sa biographie au seuil, d'Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir, et à Thierry Paco, éditeur chez Fayard des œuvres complètes d'Illich et à Terre urbaine de H2O. Merci à Alexandre Abergel, Nicolas Mathias, Pauline Laverdure, à Hugues Kester pour les lectures, les agents d'intelligence service, Adèle Caïto, Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation, Audrey Ripouille. Quelques minutes après le journal, vous retrouverez l'humeur vagabonde de Kathleen Evin.